Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors dans notre série que j'ai appelée « Des lois pour vivre les 10 commandements », je vais vous faire le petit résumé des premiers messages, parce que ça va toujours un peu nous rafraîchir dans où on va. Alors dans le premier message, on s'est posé la question, quelle peut être la place des 10 commandements dans notre vie, mais aussi dans la société, dans notre pays, dans le monde. Et on avait conclu 3 choses. Que la loi est toujours en vigueur, car elle a été donnée par Dieu. C'est pas une invention humaine. Ensuite, que les lois de Dieu sont inapplicables parce que les êtres humains ne sont pas capables de la respecter. Et troisièmement, que la loi est utile. On ne peut pas dire ça, c'est des choses d'autrefois, ou c'était valable pour le peuple d'Israël, mais plus pour nous. La loi est utile pour nous faire prendre conscience de notre état et de nous conduire à Christ. C'est ce que la Bible dit très clairement. La loi nous conduit à Christ. C'est lui le seul qui l'est accompli. Dans le deuxième message, on est entré dans le vif du sujet. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et on a vu 3 autres points. Que Dieu, c'est un Dieu unique, c'est un Dieu jaloux et c'est un Dieu qui mérite d'être servi. Puis on a commencé à voir le deuxième commandement. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Alors là, j'avais développé 3 points de nouveau. Le nom, c'est la personne. Et le deuxième point, c'était que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens utilisent des pseudos parce que c'est un monde en perte de valeur. On veut se cacher, mais Dieu, lui, se révèle tel qu'il est. Et le troisième point, c'est qu'il y a de la puissance dans le nom de notre Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser en vain, parce que si on le dit à tort, à travers, et au bout d'un moment, on veut avoir foi dans ce nom, et puis la foi, elle est absente parce que on a un peu dilapider notre capital foi dans le nom de Dieu en l'utilisant en vain. Alors on va continuer. Alors beaucoup de gens, par exemple ceux qui croient à l'évolution, ils imaginent que l'humanité est en progrès. Et donc ils sont perplexes parce qu'ils voient certaines choses de nos jours, ils se disent mais comment est-ce possible alors que l'humanité est en progrès qu'on puisse encore voir des choses comme certains crimes, du fanatisme, des folies, etc. Mais notre lecture est différente. La Bible nous décrit la nature humaine qui a besoin d'être changée par le Créateur. Et ce ne sont pas les inventions, ni les progrès technologiques, ni le savoir, ni la raison qui peuvent transformer un être humain. C'est pour ça que certaines situations dans le monde, comme dans le monde de la politique, des conflits, etc., on dit, allez, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter, on va trouver des solutions. Effectivement, si on raisonne d'une certaine façon, ça pourrait être possible. Mais si on a cette révélation de la nature humaine telle qu'elle est, on se rend compte que c'est pas possible. Parce qu'il y a des conflits, parce que chacun essaye de l'emporter, chacun veut faire prévaloir sa façon de voir les choses. Donc, on dirait, mais quel est le rapport avec de cette introduction et de quatrième message? Notre quatrième message, c'est « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». Donc, on va parler du sabbat et on va se dire, mais qu'est-ce que le sabbat peut représenter pour nous? Je dirais pour nous, en tant qu'êtres humains, partout sur la terre, et qui ne sommes pas maintenant en Israël, faisant partie du peuple hébreu, il y a 3000 ans ou 4000 ans. Donc qu'est-ce que ça peut nous apporter? Déjà, premièrement, on ne peut pas simplement évacuer des pages de la Bible en disant « Oh, toutes ces choses du sabbat, ce sont des vieilles choses dont on n'a plus besoin maintenant. » Puisqu'on a dit que les commandements de Dieu ont été donnés par Dieu lui-même pour que l'homme puisse en vivre. Donc, pour le troisième commandement, où il nous est dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier », eh bien, il est toujours valable. Et on peut en tirer quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Un passage biblique que je voudrais utiliser tout au début, c'est que c'est dans Marc 2, les versets 27 et 28. C'est le Seigneur Jésus qui parle du sabbat. Vous savez, c'est particulièrement important pour nous de voir certaines choses de l'Ancien Testament confirmées par Jésus dans le Nouveau Testament et ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes. Donc il y a tout un petit passage du verset 23 jusqu'au 28, mais on va juste lire le 27. Le Seigneur Jésus dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Et là déjà c'est très important pour nous de le réaliser. Le sabbat a été fait pour l'homme. Je ne sais pas si vous le réalisez. Ça veut dire pour moi que le sabbat c'est un don de Dieu. C'est pas une exigence, une loi qui nous enferme dans une espèce de carcan religieux, mais c'est quelque chose qui a été donné par Dieu. Jésus rajoute au verset 28, « De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il se décrivait lui-même comme le Fils de l'homme. Quand Jésus était sur terre et qu'il parlait avec les gens, il ne disait pas « Moi, le Fils de Dieu, je vous dis que ». Il n'a pris sa position réellement de Fils de Dieu que lorsqu'il a été crucifié, ressuscité et glorifié. Mais avant, il apparut pendant son ministère comme un simple homme. Et il se déterminait de cette façon. Donc il parlait de lui-même en disant le Fils de l'homme, parce qu'il s'est identifié à l'ensemble des êtres humains, hommes et femmes. Et là, il parle du sabbat et il explique quelque chose de très important. Le sabbat a été fait pour l'homme. Dans Exode 16, verset 29, parce qu'on va quand même retrouver un certain nombre de passages dans l'Ancien Testament, mais j'espère que vous allez aussi le recevoir comme je l'ai reçu, comme quelque chose qui est vraiment une dynamique pour notre vie de tous les jours. Exode 16, verset 29, il est dit « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. » Considérez. Considérez, ça veut dire « Ayez de la considération. » Soyez attentifs au fait que, non pas que Dieu vous a imposé le sabbat, mais qu'il vous a donné le sabbat. Et dans ce contexte, il nous est dit « C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours. » Donc pour nous qui croyons la parole de Dieu, nous croyons que ce miracle de la manne, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que chaque jour venait du ciel une nourriture surnaturelle qui servait à nourrir tout un peuple. Et il y avait là tous les éléments dont l'équilibre alimentaire avait besoin dans cette nourriture céleste. Mais il se passait quelque chose d'extraordinaire, c'est que la veille du sabbat, il y avait deux fois plus en quantité. Et le lendemain, il n'y en avait pas. Le sabbat était respecté et, je dirais dans ce sens, imposé par Dieu, parce que ce jour-là, il y en a qui sont sortis voulant ramasser, comme d'habitude, la manne, et il n'y en avait pas. De la même façon que, à un moment donné, Dieu avait donné des instructions en disant « Quand vous aurez donc votre manne, il faudra en prendre soin pour que vous puissiez l'utiliser le lendemain. » Et certains ne l'ont pas fait, et il nous a dit « Cette nourriture s'est infectée. » Donc il y a des choses très précises où Dieu a voulu donner quelque chose d'éducatif pour le peuple. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a voulu donner ce sabbat à l'homme pour que l'homme puisse le vivre. Le vivre de quelle façon ? Ben justement, pas de façon religieuse. Ce que l'homme a transformé, c'est que au bout d'un moment, c'est devenu vraiment ce que Jésus a décrit ici. Il a dit, ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat. Et les gens religieux, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont utiliser cette loi qui avait été donnée par Dieu pour contraindre les gens à toutes sortes de choses en disant « Le sabbat, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. » Jésus lui-même a été accusé de violer le sabbat. Dans Jean 5, 18, il nous est dit « À cause de cela, parce que Jésus appelait Dieu son propre Père, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Donc il est nécessaire pour nous de bien comprendre la parole de Dieu et de l'étudier. Ici, il nous est dit que Jésus a violé le sabbat. Vous pensez que c'est possible? S'il l'avait réellement fait, il n'aurait pas été celui qui a vécu sans péché. Donc, quand on a dit ici dans la parole de Dieu qu'il a violé le sabbat, ça veut dire que aux yeux des gens religieux, il a violé le sabbat, dans leur conception du sabbat. Et ça, c'est important pour nous qu'on le réalise. Il ne l'avait pas réellement violé. Dans Luc 6, versets 6 et 7, il nous est dit qu'ils observaient Jésus pour voir s'il allait opérer une guérison le jour du sabbat. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucun doute sur la capacité de Jésus d'opérer un miracle. Par contre, la seule chose qui les intéressait, allait-il le faire le sabbat ou pas? Parce qu'ils ont dit, il y a 6 jours pour travailler, allez donc vous faire guérir ces jours-là. Mais pour Jésus, le fait de guérir une personne ne représentait pas un labeur, mais représentait en fait l'accomplissement de la volonté de Dieu pour chaque être humain. C'était être libéré et de pouvoir vivre dans le repos de Dieu. Dans Ésaïe 1,13, Dieu fait des reproches au peuple et il dit « Pourquoi vous m'offrez de vaines offrandes ?» Donc là, c'est vraiment clairement expliqué que Dieu n'est pas impressionné par toutes sortes de rituels, de sacrifices et de choses religieuses si la nature de ce qu'on fait n'est pas réellement de plaire à Dieu et de faire le bien. Et il dit « Cessez de m'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » On devrait le rappeler un peu plus souvent, ça. Ça enlèverait beaucoup de crédit à ceux qui, sous couvert de religion, font toutes sortes de choses que Dieu n'accepte pas et qu'il n'agrée pas. Il va plus loin, verset 14. « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. » Quand vous étendez vos mains, étendre vos mains, ça veut dire dans le geste de la prière, des mains tendues vers Dieu, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Très clair, très simple. Donc ça enlève tout le fanatisme religieux qui veut asservir l'homme au nom de certains principes. Et Jésus explique quelle est la vraie nature du sabbat. Le sabbat, c'est un don de Dieu pour libérer l'homme. Donc, on peut se poser la question par rapport à, maintenant, toutes ces fêtes religieuses, pour nous, en tant que chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé au fil des siècles? Parce que nous sommes aussi le résultat d'une culture historique, pendant des siècles, qui a fait que les Juifs avaient le sabbat, qui pour nous, dans notre calendrier de la semaine, c'est le samedi, et beaucoup de chrétiens pensent, maintenant, notre sabbat, c'est le dimanche. Mais notre sabbat ne peut pas être le dimanche. Mais il n'est pas le samedi non plus, et on va le comprendre assez vite, parce qu'il n'y a pas, pour nous, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, un jour qui a été décrit dans le calendrier de Dieu comme devant être le sabbat. Le sabbat, c'est plus un principe spirituel qu'un jour religieux. Le dimanche, déjà, pour nous, n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, dans la parole de Dieu, c'est un jour qui est annoncé prophétiquement, où le Seigneur va manifester sa puissance et il va y avoir un bouleversement. Ça, c'est pour un jour prophétique pour la suite. Mais nous, nous sommes appelés à faire quoi? À sanctifier, mettre à part chaque jour. Vivre pour Dieu entièrement. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas, je fais pendant 6 jours ce que je veux, mais le 7e, là, c'est pour Dieu. C'est pas ça. Par contre, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas là pour abolir la loi, ni pour dire tout ça ne nous intéresse plus ou n'a plus de valeur. Le sabbat a encore une valeur si nous avons bien compris quelle est la nature de ce que la parole de Dieu enseigne. Dans Nombre 15, au verset 31, nous lisons la chose suivante, parlant d'une personne ou d'un peuple. « Si quelqu'un a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, il sera retranché, il portera la peine de son iniquité. » Et là, il est dit dans un contexte où certains ne respectent pas la loi de Dieu et même des personnes qui sont étrangères mais qui doivent respecter certains principes de la parole de Dieu. Donc, s'il a méprisé la parole de l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai parlé de considérer, à l'inverse, c'est mépriser. D'accord? On a soit de la considération, soit du mépris. Et ça, c'est ça que je voudrais vous partager vraiment, c'est de comprendre que le sabbat étant un don de Dieu, on ne doit pas mépriser la parole de Dieu en disant « ça ne nous intéresse pas, on n'a plus besoin de ça ». Donc si on comprend que le sabbat, ce n'est pas un fardeau religieux, mais au contraire que c'est un don de Dieu, on va comprendre beaucoup de choses telles que nous allons vivre notre vie chrétienne dans la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Dans Colossiens 2,16, voilà ce que vit la personne qui est dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps, c'est la réalité, est en Christ. Nous avons dit, la loi nous a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Les ordonnances et les règlements de l'Ancien Testament sont des choses qui étaient comme des ombres des choses à venir. Comme si quelqu'un venait vers vous et il est au coin d'une maison, par exemple, vous voyez d'abord l'ombre et ensuite vous voyez la personne, la réalité. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui annonce une autre chose plus importante. Vous êtes d'accord avec moi que la personne est plus importante que son ombre. Que personne, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté, solidement assemblé par des jointures des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si donc vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Alors ce que je vais vous expliquer, c'est pour dans beaucoup d'endroits vraiment révolutionnaire. C'est parce que les gens vont croire qu'ils sont très spirituels en enseignant aux chrétiens qu'ils doivent observer le dimanche comme les juifs observaient le sabbat. Et on a l'impression que c'est très spirituel, mais en réalité, ici la Bible nous dit que c'est sans valeur réelle. Parce que la réalité, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans l'observation ou la non-observation d'un jour, mais dans la réalité qui est en Christ. Ayant dit tout cela, nous allons quand même, on balance un petit peu de Ancien Testament, Nouveau Testament, pour voir la globalité de ce que Dieu veut nous dire au travers de tout ça. On va quand même ne pas montrer du doigt, pour que ça soit bien compris, le sabbat comme étant une chose ancienne, révolue et sans valeur. Dans Ésaïe 58, au verset 13, il y a un mot qui m'a beaucoup plu. Il nous a dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc qu'on soit Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, nous sommes, je pense, tous intéressés de vivre cette réalité, c'est-à-dire de pouvoir mettre notre plaisir en l'Éternel et qu'il nous fasse monter sur les hauteurs, qu'il nous élève. C'est ce qu'on désire. On désire être élevé par rapport aux situations difficiles que nous pouvons rencontrer, à tous les endroits de ce monde où le diable agit, et de pouvoir être élevé au-dessus de ça. Et ça se produit de quelle façon ? Lorsque nous faisons du sabbat nos délices. Vous aimez ce mot, délices ? Ça évoque des choses, les délices. D'ailleurs, même le mot Éden évoque le mot délices. C'est le jardin perdu, c'est un endroit qui était merveilleux, que toute l'humanité, on pense au paradis perdu. Et donc ici, il nous est dit, on peut faire du sabbat nos délices. Donc que ça devienne dans votre expérience personnelle, je vis le sabbat, c'est un moment de délices où je fais mon plaisir en l'Éternel. Alors il nous est dit que nous devons observer le jour du repos pour le sanctifier. Donc on a parlé du sabbat, mais le fait que ça soit un samedi, c'est pour ça que je dis, c'est pas important que ce soit le samedi, ou le dimanche, ou un autre jour, selon vos activités professionnelles, selon ce que vous pouvez consacrer à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche, il y a des gens qui travaillent le samedi, et on ne peut pas dire toute activité humaine s'arrête un jour tous les sept jours. Donc l'important c'est de réaliser que Dieu a mis en nous un calendrier. Il a mis en nous une horloge biologique qui se passe des choses entre le jour et la nuit. Il a mis en place une grande horloge qui est l'année et avec toutes les choses qui se passent dans le cosmos, entre le soleil, la lune, les étoiles et toutes ces influences. Et il y a des moments où notre corps a besoin de repos. Il y a des moments quand le corps se repose, il se passe des choses dans notre cerveau. Il y a des parties de notre corps qui se régénèrent, qui se transforment. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et il semble vraiment que cette loi de Dieu, du jour de repos, une fois tous les sept jours, soit quelque chose qui est bon pour l'homme. C'est quelque chose qui est bon pour l'homme et qui n'existait pas dans toutes les civilisations. C'est donc quelque chose de révolutionnaire qui est venu par cette loi qui a été donnée, je le rappelle, sur le mont Sinaï par Dieu lui-même. C'est pas Moïse qui l'a inventé, en disant je vais faire un bon système social pour ce peuple qui est sorti d'Égypte. Ce n'est pas Moïse qui l'a inventé, c'est le don de Dieu. Et nous avons tout intérêt à respecter cette régularité, d'avoir un jour où nous pouvons le sanctifier, le mettre à part. Exode 31:13 nous dit que le sabbat, ce jour de repos, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu continuent d'être sous l'esclavage du péché et du diable. Or, lui ne vous laisse aucun répit. Et partout dans le monde où vous voyez l'esclavage se manifester, et il y en a maintenant encore, hein, et beaucoup même, vous avez des endroits où on ne vous parle pas du dimanche et du repos ou du samedi ou d'autres choses. Parce que c'est le système du monde. C'est Babylone, c'est celle qui va s'écrouler. C'est celle qui ne peut pas durer devant Dieu. Mais pour nous, nous vivons dans l'alliance avec Dieu. Exode 31:13. Nous avons aussi Ézéchiel au chapitre 20 et le verset 20. « Sanctifiez mes sabbats. Qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Si on travaille toute la semaine maintenant et que nous avons le dimanche libre, mais en réalité on ne le sanctifie pas et on le vit que pour bricoler et travailler encore plus et faire et faire et faire, on montre par là qu'on n'a pas une vraie alliance avec Dieu. Parce que quand on a l'alliance avec Dieu, on comprend que Dieu est plus intelligent que nous et qu'il nous a donné certaines choses pour que nous puissions mettre ce jour à part, que ce soit ce jour, un autre jour ou un moment dans la journée, mais il y a des moments que nous avons besoin de mettre à part pour le sanctifier, pour que nous puissions à ce moment-là recevoir de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut ce jour-là faire du bien? C'est la question que Jésus pose dans Matthieu 12:12. Il dit « Il est permis de faire du bien ce jour-là ». Donc, repos, ça ne veut pas dire inactivité totale. Ça veut dire, je peux avoir une activité, mais il faut qu'elle aille dans le sens du bien. Pour moi-même d'abord. Il nous est dit dans Exode 31:14 que celui qui ne respecte pas le sabbat, il était puni de mort chez les Hébreux. Mais nous savons qu'on peut aussi mourir à petit feu. C'est pas parce qu'on a une fois désobéi à Dieu qu'on tombe raide mort. Mais on peut mourir peu à peu. Parce que la vie de Dieu s'écoule de nous parce qu'on ne respecte pas ses commandements, qu'on n'a pas une relation vivante avec lui, où on est régénéré dans sa présence. Alors on perd peu à peu. C'est pour ça que c'est important de pouvoir vivre ce temps de sanctification et dans sa présence. Et dans Luc 14, verset 3, « Et Jésus prit la parole, dit au docteur de la loi aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Et il l'a guéri. Et cette femme courbée, c'est dans le chapitre d'avant, au verset 10, il nous est dit « Le jour du sabbat, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait point du tout se redresser. » Et Jésus lui déclare qu'elle est délivrée de son infirmité. Ensuite, il lui impose les mains et ensuite, elle peut se redresser. Et il dit au verset 15 « Hypocrite !» Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et là, il fait une démonstration, il dit, le jour du sabbat, on peut faire du bien. Et il dit, et même vous, vous avez du bétail, vous leur donnez quand même à boire et à manger. Donc, quand je disais que le sabbat, c'était pas une interdiction totale de faire quoi que ce soit, mais il faut être attentif à certaines choses quand même. On peut avoir une activité, mais il est dit que ça doit être un jour différent. Par exemple, il y a aussi la notion du chemin de sabbat. Un chemin de sabbat, selon la parole de Dieu, dans Actes 1:12, c'est dit, c'est environ 2000 coudées, selon la parole de Dieu. La coudée, c'est environ 50 cm, donc le sabbat, vous pouviez faire 1 km à pied, mais pas plus. Donc là, c'est une fois de plus, pourquoi ? Que vous passiez pas votre jour de sabbat à voyager, voyager, voyager et vous fatiguer, Après, vous êtes censé reprendre votre activité de la semaine et vous n'êtes pas en état. Et vous n'avez pas pris le temps d'être dans la présence de Dieu. C'est ça l'idée. C'est pas que vous avez le droit de faire un kilomètre. Mais si vous faites un kilomètre, virgule, quelque chose, alors là, vous êtes condamné. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre que le chemin de sabbat, c'était réduire les activités. Vous ne vous fatiguez pas à voyager. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une interdiction totale de faire un voyage dimanche? Eh bien non, ce n'est pas ce qu'on peut en déduire. Et c'est la même chose pour les travaux. Un homme a été condamné dans la parole de Dieu parce qu'il a ramassé du bois. Mais, je veux dire, il n'a visiblement pas sanctifié le sabbat. Il ne l'a pas considéré comme un jour à part. Alors que ramasser du bois peut être quelque chose de naturel. Mais si vous ramassez du bois, c'est pour allumer le bois. Or là, il y avait aussi toute une symbolique qu'on n'allume pas un feu le jour du sabbat. Mais ça serait un trop long développement. Ensuite, le jour du sabbat, ça ne doit pas être un jour de commerce. Dans Néhémie 13, 16 et 10, 31, Néhémie, qui était très attentif, avait dit « Faites attention, il y a des étrangers qui essayent de rentrer dans Jérusalem pour faire leur commerce comme toujours. » Et donc Néhémie a donné des ordres pour que les portes de la ville soient fermées et que ce jour soit sanctifié. Parce qu'il voulait faire comme toujours. Donc là encore, nous ne sommes pas en train de faire de la politique pour savoir s'il faut ouvrir les magasins le dimanche ou non. Mais il est évident qu'une société qui ne veut plus rien respecter court à sa perte. Donc, c'est-à-dire si on encourage les gens à faire le dimanche comme n'importe quel jour et toujours plus, et de toute façon je ne comprends pas non plus économiquement ce que vous dépensez dans la semaine, vous ne pouvez pas le dépenser le dimanche. Donc il n'y a pas de pouvoir d'achat qui est augmenté ou de quoi que ce soit. Et au contraire, on est en train de détruire la structure de notre société. Donc, ce n'est pas une chose qui est bonne ni pour nous, ni pour personne. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont tolérées. Quand j'ai dit le jour de repos pour le sanctifier, on peut se poser la question, pourquoi faire? Est-ce qu'on a le droit de manger? Ben oui. Et dans Luc 13, par exemple, il nous est dit que les disciples, ils avaient faim, ils passent par un champ, ils ont pris quelques épis et ils ont commencé à manger un peu de grain qui était là dans le champ. Donc on les a accusés de violer le sabbat parce qu'on a identifié leur action à de la moisson. Ils n'étaient pas en train de moissonner le champ, ils étaient en train de se nourrir parce qu'ils avaient faim. Et donc Jésus explique, une fois de plus, c'est une interprétation abusive de la loi de Dieu. Elle n'interdit pas certaines choses, mais s'ils avaient dit, ok, maintenant nous allons moissonner ce champ aujourd'hui, que ce soit samedi, dimanche ou un autre jour, peu importe, c'est ça qui ne va pas. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Dans Lévitique 25, 2, il nous est dit de faire un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Donc vous voyez, on a déjà un certain nombre de mots très importants. Le don, le sabbat a été donné. Ensuite, on a parlé de délice. On a parlé de plaisir et maintenant nous parlons d'honneur. Vous comprenez pourquoi on est très loin du langage religieux qui veut asservir les hommes? Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Et dans Ésaïe 66, verset 23, un passage qui est prophétique, il nous est dit qu'il y a un temps qui viendra où il y aura des gens qui vont venir de partout pour adorer l'Éternel. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Il y a un passage prophétique qui donne dans ce sens, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat. Donc il y a des choses qui sont annoncées. Donc le plus important, c'est mon troisième dernier point, c'est maintenant que nous puissions, au travers du repos, du jour du repos, entrer dans le repos de Dieu. Et ça, c'est le plus important pour nous, de pouvoir expérimenter le repos de Dieu. Si vous dites, je vais continuer dans mes activités, mais dans mon cœur, je suis en communion avec Dieu et je peux le louer, l'adorer, et vivre ma foi pleinement. Il y a des moments où vous devez arrêter vos activités, vous devez freiner. Même si nous sommes peut-être doués de beaucoup de talents et de dons et de capacités, on ne peut pas en permanence être dispersé et en même temps adorer l'Éternel. Parce qu'il y a un moment, quand on adore Dieu, on ne fait plus rien d'autre. D'accord ? Ça ne veut pas dire que nous devons rester pendant des heures en adoration, en contemplation. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, à un moment donné, pour pouvoir vivre le repos de Dieu, il faut lui donner les moyens d'expérimenter cela. Ainsi, dans Hébreux 3, nous avons un certain nombre de recommandations qui commencent d'ailleurs de façon négative, puisque d'abord Dieu dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans le repos ». On peut dire que Dieu avait prévu un plan tellement merveilleux pour l'être humain, en disant, voilà, vous aurez une alternance d'activité, de repos, vous pourrez jouir de ma présence, vous pourrez jouir de ma bénédiction, et puis il se rend compte que l'être humain n'adhère pas du tout à son plan, et dit, bah, si c'est comme ça, tu rentreras pas dans le repos. Il y a une espèce de refus, puisque tu ne crois pas que ce que moi je veux te proposer, c'est bon pour toi, bah là, tu l'auras pas. Donc dans Hébreux 3, et c'est le Saint-Esprit qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et puisque vous voulez pas, puisque vous voulez être incrédule, vous ne connaîtrez pas le repos de Dieu. Un peu plus loin, verset 15, encore une fois, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs par rapport à ce message en particulier. Vous avez besoin de respecter le sabbat, une alternance d'activité et de repos, un moment mis à part où vous entendez de la part de Dieu, vous prenez du temps pour sa parole, pour la prière, pour la méditation. Et vous allez expérimenter le repos de Dieu. Et il nous explique encore une fois, qui étaient ceux qui se sont révoltés? Contre qui Dieu a-t-il été irrité? Mais c'est contre ceux, au verset 19, ceux qui n'ont pas pu entrer dans le repos à cause de leur incrédulité. D'accord? Donc ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Dieu, ton truc là, ça ne marche pas. Je ne peux pas m'en sortir avec ce que toi tu prévois. Donc il faut que j'ai un autre plan, le mien, il va mieux marcher. Mais non, c'est pas comme ça. Et donc on voit au chapitre 4 de Hébreux, craignons donc, ça veut dire ayons ce respect pour Dieu, la crainte de dire, je ne vais pas mépriser la parole de Dieu, parce que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Nous ne sommes pas ici pour parler de la colère de Dieu et de son rejet. Nous sommes là pour dire, non, cette promesse d'entrer dans le repos existe encore. Elle est encore valable. Et donc, craignons, il faut nous dire les uns et les autres, pour qu'aucun ne paraisse être venu trop tard, pas rater l'occasion, disant, vas-y, fais-le, ça te fera du bien. Si tu respectes ça, ça va te faire du bien dans ta vie. Ça va te permettre de pouvoir reposer ton corps, de recevoir des nouvelles idées de Dieu, d'honorer l'Éternel. Tu vas recevoir plein de choses de cette façon. C'est la meilleure façon. Donc, trouve ton sabbat à toi, celui qui te convient, mais celui dont tu as besoin. Au chapitre 4, quand on tourne un petit peu plus loin, verset 9, il nous est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Êtes-vous participant du peuple de Dieu? Alors, quelque chose est réservé. Si vous prenez le train ou un avion, vous avez une place réservée. Vous avez votre ticket. Personne d'autre n'a le droit de s'y mettre. Si vous réservez dans un restaurant, la table est réservée, personne s'y met. Et ici, la parole de Dieu nous dit, il y a quelque chose qui a été réservé pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Personne ne peut prendre votre place. Elle est réservée. Dieu l'a réservée pour vous. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est pour nous. Donc, on veut prendre ce sabbat. Dieu nous a réservé un endroit de repos, un endroit où je peux me ressourcer et un endroit où il y a des promesses qui sont liées au sabbat. Vous voulez avoir une promesse? Eh bien, je l'ai dit, on retourne un petit peu dans l'Ancien Testament. Comme quelqu'un disait, j'aime feuilleter les pages de ma Bible, Ésaïe 56, 6, et j'aime bien vous faire cette démonstration que toute la parole de Dieu est inspirée. Il n'y a pas seulement ici ou là dans les épîtres ou dans les évangiles ou que sais-je. Partout, vous avez la pensée de Dieu. Il nous est dit même pour des étrangers, donc on pourrait dire, ah oui, mais c'était pour les Juifs, mais des étrangers qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour eux? Ben, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Voyez? Je les réjouirai. J'ai déjà fait la liste de tous les mots positifs tout à l'heure. On rajoute encore, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur l'autel. Vous vous rappelez, la fumée de Abel est montée, celle de Caïn n'est pas montée, elle était agréée. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et nous nous retrouvons nouveau dans le Nouveau Testament quand Jésus avait dit cela en disant « Le temple, c'était pas seulement pour les Juifs, mais c'était aussi toutes les nations qui pouvaient venir rencontrer le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul et unique vrai Dieu. » Et qu'est-ce que nous avons vu ici? Ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Le mot profane est exactement l'inverse du mot sacré. Ce qui est du profane, ce n'est pas du domaine sacré. Et donc, on a besoin de comprendre ce qui est sacré. Beaucoup de gens ont du mal à faire la différence entre ce qui est sacré et religieux, mais ce qui est sacré, ça veut dire ça vient de la part de Dieu, c'est différent et nous devons le considérer. Alors, on peut profaner le sabbat parce qu'on ne le considère pas comme un jour particulier. On peut profaner le sabbat parce qu'on ne prend aucun moment dans notre semaine spéciale pour Dieu, ou dans notre journée, ou dans un autre moment. Et donc, entrer dans le repos de Dieu, il produit pour nous un certain nombre de choses. Le salut, la guérison, on a vu cette femme qui était fille d'Abraham. Ne fallait-il pas la guérir le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'est un jour de guérison. C'est un jour de prospérité, c'est un jour où on reçoit des bénédictions de Dieu. Donc on peut, en conclusion, on se pose la question dans Marc 3, 4. Peut-on, le jour du sabbat, faire du mal ou faire du bien? La réponse me semble évidente. Voilà, mais on peut faire donc du bien. Vous pouvez faire du bien. Et l'autre question qui vient aussi, que chacun doit se poser, on a dit Dieu s'est reposé lui-même de ses œuvres. Il a travaillé 6 jours, ensuite il s'est reposé le 7e. C'est pour nous donner une ligne de conduite. On peut se poser la question par rapport à nos activités. Est-ce que je suis dans le repos de Dieu? Le repos de Dieu, ça ne veut pas dire tout va facile, tout seul, jamais d'effort à fournir. Mais ça veut dire, est-ce que je suis dans une inquiétude, dans un climat de tension, de soucis permanents, toujours le bras de fer? Même si c'est difficile des fois à l'extérieur, est-ce qu'au fond de moi, je vis ce repos de Dieu? Comme on a chanté, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Donc posez-vous la question, est-ce que je suis dans le repos? Si vous ne l'êtes pas, alors prenez-vous du temps de repos. Vraiment un temps de qualité où vous faites ce que je vous ai recommandé. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.